France, from Canada, from US,
RFI.
From China, from Korea, from Japan.
Grand reportage.
From Belgium,
nous trouvons ici des déchets qui viennent de France, du Canada, des États-Unis, de Chine, de Corée, du Japon, de la Belgique et de Turquie. La Malaisie est championne mondiale. Nous sommes la poubelle du monde entier. C'est triste, c'est pourtant un droit humain très basique de vivre dans un air propre et de boire de l'eau propre. Mais nous subissons une pollution grave jour et nuit.
C'est le cri de colère d'une Malaisienne. La décision de la Chine de fermer ses portes aux plastiques étrangers début 2018 a plongé l'industrie mondiale du recyclage dans le chaos. Et l'Asie du Sud-Est croule sous les rebuts envoyés par l'Occident. En Malaisie, officiellement, 170 usines illégales de recyclage ont été fermées, mais les contrôles sont laxistes et les mafias locales prospèrent. La colère monte, nous ne sommes pas votre poubelle. C'est un grand reportage de Heike Schmidt qui a suivi la trace de nos déchets de Paris jusqu'en Malaisie.
Il y a des verres en plastique, il y a des pots de yaourt. Des sachets d'emballage.
Chaque semaine, Madame Lefty, gardienne dans un immeuble parisien, sort la poubelle jaune.
Et le matin tôt, il y aura le camion qui va passer. Et ça va être le camion qui part pour le tri sélectif,
pour être recyclé, bien sûr. Ouais.
Une partie de ces déchets, c'est vrai, sera recyclée en France, mais une autre, trop souillée, entamera un long voyage. Entassés dans des conteneurs, ces plastiques partent en bateau, direction l'Asie du Sud-Est, à plus de 10 000 km de Paris. L'aéroport de Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. C'est ici que nous avons rendez-vous avec Jules Rahman Ong, journaliste et militant écologiste qui, depuis des mois, traque les rebuts venus des pays riches.
Nous partons vers le nord, à 500 km de Kuala Lumpur, à Sungai Petani. Là-haut, on trouvera du plastique importé du monde entier. Au début, ils arrivaient dans le port malaisien de Klang. Mais comme c'est proche de la capitale, les autorités ont rapidement nettoyé. Maintenant, le plastique est éparpillé un peu partout. À Sungai Petani, on trouvera beaucoup d'usines clandestines.
Depuis que la Chine a fermé ses portes au plastique occidental, la Malaisie croule sous les déchets. 870 000 tonnes sont arrivées en 2018, trois fois plus qu'il y a encore deux ans. Azhar bin Mohamed est l'un des premiers habitants de Sungai Petani qui ont vu arriver les camions remplis à ras-bord de plastique.
J'ai trouvé des tas de plastique qui brûlaient en plein air derrière ma maison. J'ai fait quelques recherches et en fait, ces déchets avaient été visiblement déchargés à cet endroit par des usines clandestines qui opèrent ici à Sungai Petani.
De petite taille, souriant en coin et bonnet vert en tricot vissé sur la tête, cet enseignant d'une école coranique pointe du doigt des amas de déchets, alignés au bord d'une piste poussiéreuse qui traverse une plantation d'huile de palme. Des bouts de plastique, des briques de lait de soja, des bouteilles de coca et des gobelets de café s'entassent au bord de la route.
On a trouvé du plastique de France, de Nouvelle-Zélande, de Turquie et même du Pakistan. J'ai trouvé des emballages alimentaires, des bouteilles, de shampoings, de sachets, de chips, voire même des préservatifs.
Nous suivons la trace des camions et arrivons devant ce qui ressemble à une scierie, des troncs d'arbres amassés devant un hangar, le sol couvert de sciure de bois.
Un panneau indique que nous sommes devant une scierie. Mais pourquoi est-ce qu'il y a là-bas, au fond, plein de gros ballots de plastique stockés dans une scierie ?
De tels entrepôts clandestins et usines de recyclage poussent comme des champignons à Sungai Petani et provoquent la colère des habitants.
Le gouvernement local dit qu'il y en a 37, mais je pense qu'il y en a déjà une bonne centaine. Début 2018, la Chine a banni les importations de plastique. Depuis lors, ces déchets envahissent notre pays. Au début, ils arrivaient à Taïwan, mais Taïwan a vite interdit les importations. Ensuite, ils ont envahi la Thaïlande, le Vietnam, la Birmanie, le Cambodge, les Philippines et surtout, nous, la Malaisie.
Lydia Ong habite à Sungai Petani, une ville de 550 000 habitants, avec ses centres commerciaux modernes et ses bâtiments coloniaux, vestiges de l'ancien occupant britannique. Sungai Petani est devenue la capitale malaisienne du déchet. Je veux couper court et regarder terminer. Lydia, à la tête d'une initiative locale, mène une bataille acharnée contre l'arrivée massive d'ordures étrangères qui empoisonnent sa ville et sa vie.
La Malaisie s'est très rapidement fait un nom. Notre ministre du Logement, Zureida, a dit que ce commerce vaut 1,3 milliard d'euros, que nous pourrons transformer des déchets en or. Mais en vérité, le gouvernement n'y gagne rien. Les entreprises travaillent illégalement et ne paient pas d'impôts. Les seuls qui se remplissent les poches, ce sont les corrompus.
Lydia Ong nous conduit dans la zone industrielle Kedah Halal Park, en face d'une usine qui produit des aliments halal, l'entreprise Green Alliance. Un ouvrier perché en haut d'une échelle est en train de rehausser la clôture en vissant des plaques de tôle. À peine descendu de notre voiture, l'agent de surveillance lance une alerte via son talkie-walkie. Il reste juste le temps à Jules Rahman Ong de lire ce qui est écrit en malais sur un panneau fixé au-dessus d'un ruban jaune.
Green Alliance a reçu l'ordre de cesser toute activité liée au recyclage de plastique, faute d'avoir présenté une licence. Ordre signé le 2 mai 2019 par le comité exécutif de l'État régional de Kedah.
Vous devez partir maintenant, vous comprenez? Nous n'avons pas le choix. Nous ne sommes que des ouvriers. Il faut nourrir nos femmes et nos enfants.
Cette usine n'a pas la moindre autorisation d'opérer ni le droit d'importer des déchets. Les autorités locales l'ont fermée et scellée parce qu'elle ne respectait aucune norme. Pourtant, cette usine continue d'opérer. Jour et nuit, les riverains sentent le plastique fondu, comme des pneus qui brûlent. Beaucoup de gens toussent la nuit, beaucoup de gens n'arrivent plus à respirer à 3 heures du matin. Beaucoup de gens.
C'est le cas de Renée qui, depuis des mois, a des crises d'asthme. Chez elle, sur la table du salon, la jeune fille expose toute une batterie de médicaments.
Je m'appelle Renée, j'ai 16 ans, il y a environ 3 mois. J'ai senti une odeur de plastique brûlé qui m'a provoqué une crise d'asthme. C'était comme si vous devez respirer à travers une paille. Le docteur disait que c'était sérieux, j'ai passé 10 jours à l'hôpital. Cela fait maintenant 3 mois que je ne vais plus à l'école. Mes amis me manquent beaucoup, mais l'air est irrespirable. Parfois je sors, mais jamais sans mon masque.
Les habitants ont documenté le désastre écologique dans un épais dossier. Les pics de pollution, les chiffres alarmants montrant que le sol proche des décharges sauvages est saturé de métaux lourds. Le médecin Sanitéo qui rend visite à René sait qui est à blâmer et qui en subit les effets nocifs.
Ce sont les personnes âgées et les enfants qui vivent proche des usines de recyclage qui souffrent de toux chroniques et de problèmes respiratoires. D'avril à juillet, nous avons enregistré une augmentation de 15 à 20% d'admissions à l'hôpital. La nuit, nous avons admis 30% de plus de patients souffrant d'asthme et de problèmes respiratoires.
Comme Lydia Ong, le docteur Théo ne se contente pas de constater les dégâts. Le jour, il soignait ses patients dans sa clinique privée. Le soir, le médecin, à la voix douce et aux cheveux grisonnants, se transforme en militant, déterminé à traquer ceux que l'on appelle les cow-boys ici, les gangsters du recyclage. Pour savoir ce qui se passe derrière les grilles, le médecin d'une soixantaine d'années s'est équipé d'un drone. Depuis une colline boisée à une quinzaine de kilomètres du centre-ville, Dr Théo envoie son petit engin vers un terrain industriel clôturé, niché au milieu des plantations d'huile de palme.
They don't allow us to go inside the factories.
Les patrons nous refusent l'accès à leur usine. Du coup, on les survole pour enquêter sur ce qui s'y passe.
Okay.
Lorsqu'une usine reçoit l'autorisation de traiter des déchets, elle doit prouver que ces déchets sont protégés par un toit. Mais regardez là-bas, les gros sacs s'accumulent dehors, c'est dangereux. Nous avons montré cela au gouvernement local et l'une des licences a été suspendue. Mais l'entreprise continue de travailler. Les autorités ont dû recevoir des pots de vin. Il y a un agent de sécurité qui arrive, il prend notre voiture en photo, il demande ce que nous faisons ici.
Le monsieur nous prend en photo. What are you asking for?
No, nothing.
On doit repartir.
Ça arrive souvent?
Oui, mais comme vous êtes étrangère, il est resté courtois. Avec nous, les gens d'ici, ces hommes peuvent être vraiment méchants.
If you are local, they can get a bit nasty.
Who are the people operating this? Qui contrôle ce business?
Most of them, the real people are probably.
Ce sont des Chinois qui travaillent avec des sous-traitants malaisiens.
They have their local agents from Malaysia.
Ceux qui osent dénoncer les hors-la-loi du recyclage sont menacés, voire passés à tabac. Comme Vincent Hou, voisin de bureau d'un entrepôt clandestin scellé par les autorités.
Je voyais tous les jours des camions entrer et repartir dans l'usine. Un jour, j'ai posté une vidéo sur Facebook. Ça a dû les fâcher. Ils m'ont invité à visiter leur entreprise. J'y suis allé, mais ils ont vite fermé la porte derrière moi à clé. Le boss, un Chinois, a commencé à me frapper. Et puis, il y avait deux Indiens qui m'ont aussi frappé, avec une barre et un cadenas de moto.
Blessé au dos, à la main et au visage, Vincent Hou a dû être soigné à l'hôpital. Il a porté plainte, mais ses agresseurs n'ont jamais été condamnés. Il faut attendre la nuit pour vérifier si les usines de recyclage tournent 24 heures sur 24 en mettant la santé des riverains en danger.
Right now, it's about 2:08 in the morning.
Il est 2h08 du matin maintenant. Les usines de recyclage ont interdiction de tourner après 20h, et ce jusqu'à 6h du matin. Donc, qu'elles soient scellées ou pas, si elles travaillent la nuit, elles violent la réglementation en vigueur.
They were already against the law.
Je monte sur l'escabeau pour voir mieux ce qui se passe derrière cette clôture bleue qui fait au moins 2,50 m, voire 3 m de haut. Et derrière, on voit des dizaines et des dizaines de sacs en plastique bien remplis.
Le vent nous amène une odeur chimique.
En fait, on voit aussi une cheminée. Dans ça, une fumée blanche, selon ce qu'on peut voir en pleine nuit. Il y a un bruit comme si c'était une machine à laver géante qui lavait les bouts de plastique.
Yeah, like a wash, like.
Oui, comme une essoreuse. Ça fait partie de la procédure. Ils lavent le plastique avant de le faire fondre. Opérer la nuit est totalement interdit.
Le lendemain, un employé rencontré dans une buvette à côté de l'entrée de l'usine nous l'affirme à demi-mot. L'usine PP Industries tourne à plein régime.
Quand le plastique est livré, il est lavé, séché et ensuite fondu. Le produit fini, ce sont des granulés de plastique en résine qui sont réexportés. Impossible de se contenter de tourner 12 heures par jour, il y a trop de plastique qui attend.
Les pouvoirs publics semblent dépassés par l'ampleur du phénomène et les élus locaux se montrent assez peu déterminés à débarrasser leur ville du fardeau. En marge d'une session du Parlement à Kuala Lumpur, le député de Sungai Petani, Johari bin Abdul, nous reçoit dans son bureau, impeccable dans sa veste à double boutonnage, confortablement installée dans son imposant fauteuil d'homme politique important.
On ne peut pas mettre un policier devant chaque entreprise 24 heures sur 24. Les gens m'accusent de ne pas en faire assez pour ma circonscription. Non, ce n'est pas vrai. Je ne protège pas ces criminels, non. On me dit que tout le monde tombe malade, mais sont-ils malades à cause de la pollution de l'air? Nous n'en savons rien. Moi, j'autorise les gens à manifester en disant « S'il vous plaît, descendez dans la rue. Moi seul, je ne peux pas fermer ces usines. »
Alertée par les photos de déchets brûlés en plein air, la ministre de l'Environnement, Yeo Bi-in, a promis le renvoi de centaines de conteneurs à leur envoyeur. C'était en avril dernier. Depuis, 170 entreprises illégales ont été fermées, mais rien n'y fait si l'on en croit le docteur Théo.
Le renvoi n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Notre ministre a en effet réexpédié 4000 tonnes de déchets, mais la Malaisie en a importé 870 000 tonnes en 2018. Où sont passées les autres 866 000 tonnes? Elles ont fini dans nos sols, dans nos rivières et dans notre eau potable. C'est grave.
Le recyclage, un mythe qui s'effondre, c'est en tout cas ce qu'affirme Heng Xiaochun. Pendant plusieurs mois, il a mené une enquête pour l'ONG Greenpeace.
Plus de 19 pays au total nous ont balancé leurs ordures. La France se trouve au 10e rang de ceux qui nous ont envoyé le plus. Regardez, on a trouvé du plastique McDonald's avec des informations écrites en français, en allemand, en anglais. Donc ce ne sont pas des ordures malaisiennes.
Il y a des emballages de chips, il y a des gobelets de café Starbucks, il y a des emballages et des bidons de lessive.
Il y a aussi des plastiques français de cette marque-là.
Donc vous avez trouvé de la choucroute du Rhin, un emballage français dans ces piles de plastique. Yves Rocher, Fleury-Michon, c'est de la charcuterie. Entre janvier et juillet 2018, la France a elle seule a exporté 18 000 tonnes de plastique en Malaisie. Mais la palme d'or revient aux États-Unis, suivie par le Japon, le Royaume-Uni et l'Allemagne.
La Malaisie a pris quelques mesures, mais en réalité, nous sommes impuissants. C'est le système global de recyclage qui a échoué. Nous appelons donc tous les gouvernements et toutes les entreprises du monde à interdire le plastique à usage unique. La seule réponse à la surconsommation est de réduire nos déchets.
Pendant ce temps, les conteneurs continuent d'arriver dans le port de Penang, l'un des deux grands ports malaisiens. Alors que le ministre régional de l'Environnement, Pi Bun Po, a déjà 400 autres conteneurs sur les bras. Sur son téléphone, il nous montre les photos de ces découvertes dégoûtantes.
Nous avons reçu des centaines de conteneurs. Une fois examinés, nous avons constaté qu'il ne s'agissait pas de déchets recyclables, mais de déchets municipaux contaminés. Or, nos usines locales n'ont pas le moindre équipement pour les traiter. Où prennent-elles l'eau pour laver ces déchets? Elles la puisent dans les nappes phréatiques. Nous avons déjà trouvé un taux excessif de métaux lourds dans notre eau.
En France, le traitement d'une seule tonne de déchets coûte 100 euros. L'expédier en Malaisie coûte deux fois moins cher, nous explique le ministre.
L'exportateur dit « Je vous paye 50 dollars par tonne et 1000 dollars par conteneur ». Ça lui revient beaucoup moins cher que de traiter ses déchets chez lui. Alors, il tire un bon profit de ces mauvais déchets. Je leur dis, regardez messieurs, avant d'embarquer vos conteneurs sur un bateau, assurez-vous que vous nous envoyez uniquement du plastique propre. Nous voulons responsabiliser les pays exportateurs.
Pas de sachets ni d'emballage en plastique. Avec ses parents, Shaden Te fait ce qu'il peut pour réduire ses propres déchets. Mais que faire face à l'invasion des ordures qui arrivent de l'étranger? Un jour, lorsque la pollution était telle que la cour de récréation était une nouvelle fois fermée, cet élève de 11 ans, fier dans son uniforme de l'école internationale Regent, a pris du papier et un stylo pour écrire une lettre au ministre de la Santé.
Le mardi 8 octobre 2019, à 7h35 du matin, j'ai vu une usine locale brûler du plastique. J'étais vraiment triste parce que mon entraînement de foot a été annulé pendant 3 semaines entières à cause de la pollution. Pour vivre mieux, il faut arrêter cette pollution.
Tant que l'Occident inonde l'Asie du Sud-Est avec ses déchets, les habitants de Sungai Petani resteront mobilisés. Des manifestations, des pétitions, des plaintes déposées au commissariat. Lydia Hong et son mouvement de citoyens en colère tentent tout pour ne pas être engloutis par des tonnes de plastique. Exaspérée, la militante lance cet appel.
S'il vous plaît, nettoyez vos déchets vous-même. N'envoyez pas tout ce dont vous voulez vous débarrasser vers d'autres pays. Vous voulez que votre pays soit propre, vert, heureux et sain, mais vous mettez en danger la Malaisie.
Le Tapir Times rit jaune et lance ce slogan aux touristes du monde entier. Venez visiter vos déchets. Au lieu d'aller bronzer sur les plages paradisiaques, le journal satirique propose aux vacanciers d'apprécier leur petit pot de yaourt aux myrtilles en Malaisie et de les ramener en guise de souvenir.
La colère monte, nous ne sommes pas votre poubelle. Un grand reportage de Heike Schmidt, réalisation Pierre Chaffangeon, un magazine à retrouver sur le site de RFI. Appelez-nous, exprimez-nous.